Europe 1. Sur Europe 1,
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir que de vous retrouver pour deux heures d'histoire saupoudrées de bonne humeur. Vous connaissez le principe hein, d'Historiquement Vôtre. Chaque après-midi, trois personnages très différents mais qui ont un point commun. Aujourd'hui, rien à voir avec vous Mathieu. Oui, parce qu'on réunit de grossiers personnages.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Bien sûr, rien à voir avec moi. En revanche, avec vous, on ne peut pas ne pas faire le lien, surtout quand vous relisez Julien Green.
Allez, je me lance.
Non, non, vous lancez pas.
Je vais voir Benga ce soir.
Non, pas Benga.
Ah,
non, grossier mais jamais vulgaire, telle est votre devise. Et donc, nos personnages étaient un peu comme vous, Stéphane.
Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Ils étaient vraiment grossiers. Et merde.
Mais comment ça, merde, Stéphane?
Bah, merde.
Gendarmez-vous.
Merde, c'est le mot de Cambronne. Le mot que le général Pierre Cambronne aurait rétorqué aux Anglais lors de la célèbre bataille de Waterloo, comme l'a raconté dans ses écrits Victor Hugo. Et que je vais aussi vous raconter aujourd'hui. Une légende qui, plus que ses actes, a suffi à le faire passer à la postérité. Puis, lui aussi a écrit des livres, des poésies avec un langage peu fleuri, un univers bien à lui, l'américain Charles Bukowski, qui s'est autoproclamé vieux dégueulasse dans la littérature. Quant à vous Mathieu, vous nous brosserez le portrait à 99% vrai d'un humoriste volontiers grossier, passé du Stade de France au point virgule.
Oh que vous êtes dur et fielleux Stéphane. Oui, aujourd'hui je vous raconte le destin d'un humoriste qui paye un peu ses égarements complotistes, Jean-Marie Bigard, qui se cache Stéphane derrière l'auteur de votre sketch préféré, le lâcher de salope, réponse à 5h20.
Il est grossier mais pas vulgaire je crois. Et avec nous, comme chaque jour, il se lâche aussi, mais toujours très poliment.
Oui.
Ce sont nos chroniqueurs, notamment la très distinguée, qui nous entraîne dans l'histoire de l'intimité de l'histoire.
Ne forcez pas l'accent snob, Stéphane. Vous l'avez relativement naturellement. Quand vous le forcez,
c'est vrai.
On est encore
vous
dans une troisième dimension.
Ah, vous trouvez vraiment. Je me caricature moi-même. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bonjour Clémentine.
Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Vous parliez du mot de Cambronne. Vous savez qu'au Québec, on ne dit pas merde, on dit marde, marde. Oui, les mots grossiers. Oui, marde. Ah, mais c'est la marde, ouais. Oui.
Sinon,
les mots grossiers
sont
proscrits. Elles sont proscrits au Québec, comme partout ailleurs. Mais ce qui est surtout très mal vu sont les mots anglais, plus que les mots grossiers. Par exemple, on ne dit pas podcast. Vous savez ce qu'on dit au Québec?
Balado-diffusion.
Ah, bah, exactement. On ne dit pas spoiler, on dit.
Divulguer.
Exactement, c'est beau ça. Et pour éviter qu'il y ait trop de mots anglais, ben, on a même légiféré avec la célèbre loi 101 de 1977, dont l'adoption a suivi les premières manifestations linguistiques. Donc, plus que les mots grossiers au Québec, les mots anglais, et ça n'est que justice.
Très bien. Avec David Castel-Lopez, on remonte aux origines de ce qui a changé notre vie, ce qui fait notre quotidien aujourd'hui. Et aujourd'hui, de quoi nous parlez-vous?
C'est la brique de lait. Vous savez, cet emballage. Je fais beaucoup l'histoire des emballages.
Vous aimez ça, oui.
J'aime
en
ça.
En fait, vous les gardez. Vous avez peut-être le syndrome de Diogène.
J'en ai quelques-uns chez moi. Vous ne croyez pas si bien dire. Alors, pas tous, hein, mais j'ai une petite collection de. Surtout quand les packaging changent, vous voyez, on s'attache à un design de packaging, on voit qu'il change.
Et vous,
on garde la version ancienne.
Ah oui.
Toujours.
Ouais. Mais vous êtes excité par le changement ou ça vous fait peur?
Ah non, je suis triste du changement. Je m'y fais, mais il y a toujours une petite ruine intérieure.
Ouais. On dit que vous avez encore des boîtes de Nesquik, de gros cuir, des choses comme ça.
Malheureusement, pas ça parce que je faisais ça avec ma mère quand j'étais petit, mais elle jetait les trucs parce qu'elle me trouvait un peu débile. Sur quoi elle a peut-être pas complètement tort. Mais voilà.
Avec nous, Olivier Pouls, aussi on va parler des origines d'un mets, d'un plat, d'une recette.
D'un tout petit produit délicieux, les pignons de pain. D'où nous viennent les pignons de pain?
Visiblement, il y a une sorte d'unanimité autour du pignon de pain.
Je déteste ça.
Ah bon,
je les enlève quand je les vois dans l'assiette.
Ah, mais moi j'adore ça.
Excellent, mais trop cher. Et là, c'est.
Pardon?
C'est très onéreux, les pignons.
Ah bon, non,
ça
peut
pas marquer ça, ce détail-là.
Non, c'est dans les restaurants, vous en mettez partout maintenant.
Et vous saurez pourquoi c'est cher? Parce que c'est extrêmement difficile à récolter.
Il
faut éclaircir quelque chose, Stéphane. Un bon pesto sans pignon de pain n'est pas un bon pesto, Stéphane. Alors, c'est vrai qu'au restaurant, si vous demandez des pâtes au pesto et qu'on vous
ça
met du pain.
Jamais.
Non, vous ne jamais. Non. Uniquement des.
Jamais, voyez-vous, parce que si vous demandez des pâtes au pesto dans un restaurant, vous flinguez votre rendez-vous d'après. C'est vrai.
Mais tout le monde ne butine pas comme vous toute la journée.
Non,
Stéphane,
c'est pas
que ça rendez-vous
butine,
galant. Rendez-vous galant.
Un peu de délicatesse pour la personne qui partage votre vie, quand même.
Bien sûr.
Bah, si elle en prend aussi.
J'ai jamais compris cet argument parce que du coup, c'est une sorte de puanteur mutuelle.
Oui, mais elle se neutralise.
Non, ça marche pas comme ça. Là où il se neutralise rarement, c'est Bern to be alive, notre grand quiz d'histoire. Chaque jour, Clémentine face à Stéphane Bern, ça sera tout à l'heure. Mais d'abord, partons à la rencontre de notre premier personnage du jour.
Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Son nom est entré dans l'histoire avec un mot, et un seul, un mot de 5 lettres, un mot grossier.
Nicolo.
Non, grossier pour tout le monde, pas uniquement pour vous Stéphane. Le toujours très poli Stéphane Bern nous raconte un général qui aurait dit merde aux Anglais, Pierre Cambronne.
Si certaines dates ont marqué l'histoire de France, comme le 11 novembre ou le 14 juillet, il y a des jours bénis qui l'ont même marqué par deux fois. C'est le cas du 18 juin. Quand on pense au 18 juin, on pense naturellement au célèbre appel que le général de Gaulle a lancé depuis le micro de la BBC en 1940.
J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre.
Mais comme l'histoire a parfois le sens de l'humour, il se trouve que le 18 juin, c'est aussi le jour qui signe la défaite et la dernière grande bataille de Napoléon Ier, perdue face à ces mêmes Anglais en 1815 à Waterloo. Choisir le jour d'une des défaites les plus marquantes de l'histoire du pays pour appeler ses compatriotes à continuer le combat ne manque pas de sel. Quoique. Oui, quoique, parce que si Waterloo a bien enfoncé le dernier clou dans le cercueil du Premier Empire, la journée reste pourtant glorieuse grâce à un homme et à un mot. L'homme, ce n'est pas Napoléon Bonaparte, mais l'un de ses fidèles, général et baron d'Empire. Le mot, c'est celui qui porte son nom, un mot de 5 lettres que nous utilisons tous, et qui marque aussi bien la colère et l'exaspération que l'impatience, la douleur ou le mépris. Merde. Pierre Cambronne, en répondant vertement aux Anglais qui lui demandaient de se rendre, a donné à Waterloo une autre place dans la mémoire collective, comme si par la grâce d'un mot ordurier, le général avait en quelque sorte condensé une certaine idée du panache. Victor Hugo ne s'y est pas trompé en racontant cette histoire bien plus tard dans Les Misérables. Dans le second tome, publié en 1862, il écrit ceci. « Faire du dernier des mots le premier en y mêlant l'éclair de la France, perdre le terrain mais garder l'histoire après ce carnage, avoir pour soi les rieurs, c'est immense. » Victor Hugo a raison. Le mot de Cambronne est un mot immense, un mot qui fait rentrer la grossièreté dans l'histoire de France par la grande porte, mais c'est aussi un mot qui pose problème pour la bonne et simple raison que personne ne sait si Cambronne l'a vraiment prononcé. Et le plus étonnant, c'est que l'histoire de ce fameux merde, lancé ou non aux Anglais, a fini par virer à l'affaire d'État. Pour mener l'enquête, il faut remonter au 18 juin 1815. Ce qui se joue à Waterloo, pas très loin de Bruxelles, donc, c'est tout simplement le sort du Premier Empire. 4 mois plus tôt, l'empereur est revenu de loin, en l'occurrence de l'île d'Elbe, où les royaumes d'Europe l'avaient exilé une première fois en 1814. Mais Napoléon n'avait pas dit son dernier mot. Le 1er mars 1815, c'est le début des 100 jours. Le vol de l'aigle. Revenu d'exil, Napoléon débarque en Provence, rassemble ses fidèles et fonce sur Paris. En 3 semaines, il a repris le contrôle du pays. Mais en 3 mois, toute l'Europe se soulève à nouveau contre lui dans une nouvelle coalition jusqu'à cette bataille décisive du 18 juin à Waterloo. D'un côté, 68 000 hommes, dont 25 000 Anglais commandés par Wellington. De l'autre, 75 000 Français, dont un homme, le général Pierre-Jacques-Étienne Cambronne. En 1815, Cambronne a 45 ans et toute sa carrière ou presque se confond avec celle de Napoléon. Cambronne a le parcours typique de cette noblesse d'empire, sortie du rang, celle qui a gagné ses titres et ses galons sur tous les champs de bataille d'Europe. Nantais de naissance, il a commencé comme grenadier en Belgique, puis en Vendée pendant la Révolution. Son courage et sa fougue ont fait le reste. Et il a été de toutes les campagnes, de toutes les victoires. Il est aux premières loges dans l'armée des Alpes, à la bataille de Zurich. Il s'illustre en Suisse et en Bavière, puis à Iéna. Il est de la campagne de Pologne. Il est aussi de la guerre d'Espagne. Colonel, baron, officier de la Légion d'honneur, officier dans la garde impériale et bientôt général, Cambronne amasse les honneurs au même rythme que les faits d'armes. Et quand les choses se gâtent, il est encore là. Sur l'île d'Elbe, c'est lui qui dirige la petite garde dont l'empereur dispose encore. Au début des 100 jours, il est de ceux qui font voile vers la Provence. Et à Waterloo, il est encore là au soir du 18 juin 1815, quand les choses tournent mal. C'est peut-être lui le chanois. Vers 19h30, la bataille bascule avec l'arrivée des troupes prussiennes. Soulagés, les forces anglaises de Wellington concentrent un déluge de feu sur les régiments français. Dans une tentative désespérée pour percer le centre anglais, Napoléon Bonaparte fait donner la garde. Grenadiers et chasseurs à pied, les derniers grognards en somme s'engagent pour un ultime baroud d'honneur. Mais l'attaque est repoussée, les immortels reculent pour la première fois. Il reste aux chasseurs de la vieille garde, commandés par Cambronne, de résister jusqu'au dernier pour protéger l'armée et l'empereur. L'armée anglaise les mitraille à bout portant. Dans la confusion, Cambronne est touché à la tête, tombé au sol, cerné par les hommes du général anglais Colville. Il lance alors son fameux « merde » ou pas, parce qu'il y a deux versions de ce qu'a dit Cambronne. La première, c'est le mot de cinq lettres. La seconde, c'est « la garde meurt et ne se rend pas ». Cela dit la même chose, mais dans une version plus élégante. Et c'est en tout cas celle que publie quelques jours après le journal général de la France, l'un des grands quotidiens du pays, dans un article qui rend un hommage appuyé au courage du dernier carré des grognards. La formule est belle et on se la répète partout dans une France qui se console un peu de la défaite en saluant ce général qui envoie l'ennemi se faire voir au moment suprême. Qu'il ait dit merde ou qu'il ait dit autre chose, tout le monde néglige un détail. Sans faire injure à son courage, non seulement le général Cambronne n'est pas mort, mais il s'est bel et bien rendu. Après quelques mois de détention en Angleterre, il a fini par rentrer en France où, changement de régime oblige, on l'a jugé pour trahison. Acquitté, il a repris le fil d'une carrière glorieuse avant de mourir en 1842 dans sa ville natale de Nantes. Quant à savoir ce qu'il a dit et à qui, l'affaire a pris une ampleur à peine croyable. Cambronne lui-même a toujours dit qu'il n'avait prononcé ni le fameux « merde » ni la version polie du « la garde meurt et ne se rend pas ». Le sujet avait d'ailleurs le don de l'agacer prodigieusement, à croire le journaliste Louis de Kergeant qui raconte 20 ans après sa disparition, en 1862, le général s'emportait quelquefois avec violence, lui le plus doux et le meilleur des hommes, contre ceux qui voulaient à toute force et malgré lui, lui faire déclarer qu'il avait dit ce qu'il n'avait pas dit. Mais les démentis ne changent rien et le débat rebondit lorsque Victor Hugo publie Les Misérables et relaye à nouveau la thèse du mot de cinq lettres. Mais les symboles comptent et Napoléon III s'agace de voir qu'on répète partout cette vulgarité qui entache à ses yeux l'image de son oncle Napoléon Ier comme par ricochet. Alors, il lance carrément une enquête officielle et demande au préfet du Nord de faire toute la lumière sur cette histoire qui vire à l'affaire d'État. Ce brave préfet, M. Vallon, rend ses conclusions en juin 1862 après avoir interrogé un survivant de la vieille garde, Antoine Delot, qui confirme que c'est bien la version la plus noble qu'a lancé Cambronne aux Anglais et pas ce fameux merde qui fait un peu tache. Le seul problème dans tout ça, c'est qu'Antoine Delot n'a aucun moyen d'avoir entendu quoi que ce soit ce jour-là. Pour la bonne raison qu'il était grenadier et pas chasseur et qu'il se trouvait à plusieurs dizaines de mètres du carré commandé par Cambronne. Alors, oui ou merde, on ne saura jamais avec certitude, mais c'est bien la version courte qui est restée dans les mémoires. Et qu'on le veuille ou non, la langue de Molière est aussi et pour toujours celle du mot de Cambronne.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler du général Pierre Cambronne, nous avons le plaisir, Stéphane, d'accueillir un historien qui lui consacre une biographie. Bonjour Stéphane Calvet.
Bonjour.
Bonjour Stéphane Calvet. Vous avez en effet publié Cambronne, la légende de Waterloo aux éditions Vendémiaire. Pour comprendre le titre de votre livre, il faut s'intéresser au parcours de Cambronne avant Waterloo. Est-ce qu'il se distingue vraiment des autres généraux napoléoniens? Est-ce qu'on recense dans son parcours des faits d'armes extraordinaires?
Alors, il y a des faits d'armes extraordinaires, mais Cambronne n'est pas le seul à avoir ce type de faits d'armes. Des guerriers de la trempe de Cambronne, il y en a des milliers dans la grande armée. Certes, il a beaucoup de courage, de la fougue, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais ce n'est pas un individu exceptionnel comme d'autres généraux ou maréchaux de Napoléon. Il a eu un parcours assez chaotique au début. Il a des actions d'éclat sur le champ de bataille. Ses blessures l'attestent dans son certificat de santé fait par les officiers de la Grande Armée. Mais c'est un individu qui ne se distingue pas par rapport aux autres. J'ai presque envie de dire que c'est un général lambda de cette époque.
Est-ce que on a des sources qui témoignent de la façon dont Cambronne est perçu par Napoléon avant Waterloo? Est-ce que c'est un général qui respecte? C'est un général qui a toute sa confiance?
Alors, c'est un général qui respecte, qui a toute sa confiance, mais assez tardivement. En fait, Cambronne n'a pas été un proche immédiat de Napoléon. Il rentre dans la garde impériale simplement en 1809, alors que la garde impériale a été créée, enfin avant la garde consulaire en 1800. Donc c'est quelqu'un qui appartient plutôt à la deuxième génération de la garde impériale qui est créée au moment où il y a cette jeune garde qui est créée en 1809 justement. Donc là, il va fréquenter quotidiennement Napoléon, mais quand on examine la correspondance de Napoléon qui a été éditée par la Fondation Napoléon justement, on se rend compte que les courriers que Napoléon adresse à Cambronne, il y en a pratiquement pas, même aucun. Des fois, il est cité, mais quand en fait on envoie une lettre au maréchal Davout, au maire Chanet pour donner des ordres, il ne se rapproche de Napoléon qu'au moment de l'île d'Elbe. Lorsque Napoléon abdique à Fontainebleau, je pense que déjà Napoléon a dans la tête, au moment de l'abdication, peut-être l'idée de revenir un jour en France. Et s'il choisit Cambronne, ce n'est pas pour rien. Parce qu'avec lui, vous avez Drouot et Bertrand qui l'accompagnent, qui sont des gens d'une autre trempe quand même que Cambronne. Et il choisit Cambronne parce que c'est un homme qui va lui permettre, quand il va remonter depuis le sud de la France jusqu'à Paris, c'est Cambronne qui est à l'avant-garde de sa petite grande armée, comme on dit au moment où il est sur les plages de Golfe-Juan. Et je pense que Napoléon avait cette idée. Il a pris cet homme qui ne correspond en fait absolument pas du tout au profil que peuvent avoir les autres officiers qui entourent et qui sont dans le cercle très restreint de Napoléon. Mais Napoléon admirait son courage, sa fougue sur le champ de bataille. Et je pense qu'il l'a choisi pour cette raison. C'est un homme d'action, Cambronne. C'est un homme d'action.
Oui, vous le dites d'ailleurs dans votre livre. Vous racontez que Cambronne est une tête brûlée, un être indiscipliné et violent. C'est donc ça la véritable personnalité de Pierre Cambronne, cet illustre inconnu?
Tout à fait. C'est un individu qui a été forgé par les guerres de la Révolution, comme beaucoup d'autres à cette époque, qui a commencé sur un front terrible, les guerres de Vendée. Les guerres de Vendée vont révéler un petit peu le guerrier Cambronne. Bon, on est dans une campagne d'une hyper-violence inouïe. Hein, oui.
Et Cambronne, on est proche de la guerre civile. Là,
mais complètement. Complètement. Avec crimes de guerre, combats d'embuscade. Vous savez, moi, je comparerais beaucoup Cambronne à un personnage de roman de Roger Vercel qui s'appelle Capitaine Conan et que Tavernier a mis derrière les caméras. Pour moi, Cambronne, à cette époque, c'est un peu le Capitaine Conan. Un homme de coups de main, d'embuscade, où on combat à l'arme blanche. Cambronne, jusqu'à l'année 1805, donc il commence sa période en 1792, sa période militaire, jusqu'en 1805, il n'a commandé que une compagnie de 75-80 hommes, c'est-à-dire des hommes qui lui étaient totalement dévoués, faits pour ce type d'opération. Et donc, oui, effectivement, il est indiscipliné. Ce sont des gens qui, en fait, le pouvoir politique de l'époque utilise, parce que on ne gagne pas la guerre avec des bisounours, malheureusement, ça se saurait. Et donc, on gagne la guerre avec des gens qui sont de la trempe de Cambronne. Donc, effectivement, violent, plusieurs duels. Alors, bon, c'était une mode à l'époque, mais lui, il est connu pour sa violence, son alcoolisme aussi. Ah. Oui, l'ivrognerie, ça lui sera beaucoup reproché, notamment par les royalistes après, mais ça a été confirmé par ses amis, et puis également par quelques documents dans les archives qui le mentionnent. Et un de ses chefs sous le directoire, lorsqu'on doit qualifier Cambronne, j'ai retrouvé ça à Vincennes dans les archives militaires, dit le sang bouillant, la tête chaude. Donc, tout est dit dans cette phrase, qui est une note quand même un rapport. Donc c'est un homme qui s'emportait rapidement, mais on avait besoin d'hommes comme ça sur les champs de bataille. C'est quelqu'un qui est capable de rester debout face à la mitraille et qui en même temps est un entraîneur d'hommes, qui va emmener ses hommes vers le point le plus dangereux. Donc c'est Cambronne.
Alors, aux origines de la légende Cambronne, que vous vous attachez à déconstruire dans votre biographie, il y a non seulement le mot de cinq lettres, mais aussi la formule valeureuse qu'on lui a prêtée alors qu'il était acculé par l'ennemi à Waterloo. Une formule qui a même inspiré les rappeurs Shuriken et Faf Larage. Écoutez.
La garde meurt mais ne se rend pas. Meurt mais ne se rend pas. Ne plie pas, ne casse pas.
La garde meurt mais ne se rend pas. Comment expliquer qu'on attribue cette formule à Cambronne?
Bon, c'est tout simplement, faut se remettre dans le contexte de la défaite de Waterloo en juin 1815. Donc la défaite a lieu le 18 juin, on l'a déjà dit, et c'est le 24 juin pour la première fois que la formule apparaît sous la plume d'un journaliste assez fantaisiste qui, cette formule va être reprise immédiatement par d'autres journaux et plus tard ensuite par des hommes politiques. Parce que là, on est dans un contexte très très particulier qui est les interrogations sur l'abdication de l'empereur, avec d'un côté les royalistes qui vont profiter pour justement montrer que la garde n'a pas été si courageuse que ça à Waterloo, et de l'autre côté les partisans de l'empereur, mais aussi des nostalgiques de la République, qui vont se mettre à défendre la garde impériale, parce que défendre la garde impériale et Waterloo, c'est en fait faire honneur à la Révolution et à l'empereur. Et donc, on a en fait tout un contexte politique particulier qui fait que cette formule va prendre très très rapidement de l'importance, au point où, tout au long du 19e siècle, on n'arrête pas de le redire. Et puis alors surtout, vous avez l'iconographie avec les images d'Épinal qui va s'emparer de ça dans ce contexte politique très particulier d'affrontement entre les libéraux sous la Restauration et d'un côté les légitimistes. Bah, cette formule est au cœur de ce débat politique. C'est une véritable instrumentalisation qui est faite. Et donc avec l'imagerie d'Épinal, mais vous avez également les poèmes, les chansons, les chansonniers qui vont reprendre tout ça. Vous avez également des peintres. Et très rapidement, ça va se répandre d'abord dans les milieux bourgeois éclairés libéraux, et puis ensuite dans les milieux populaires, notamment avec les images d'Épinal. Et très très rapidement, la formule va être associée à Waterloo, le dernier carré de la garde et Cambronne. Mais bien évidemment, un homme comme Cambronne est-il capable de prononcer une telle phrase, en plus dans un contexte de bataille? Il faut savoir que
quand il se fait tirer sur la tête.
Voilà, c'est une provision extrême.
Bien sûr.
Et puis, bon, en connaissant le vocabulaire de Cambronne et l'éducation qu'il a reçue, même s'il a été au Collège des Oratoriens de Nantes, mais peu de temps, où il a croisé un certain Fouché d'ailleurs, quand même, Cambronne, j'ai lu certaines de ses lettres, c'est pas l'art c'est de pas cette formule-là.
Mais alors, après celle de la formule vient la légende du fameux mot en cinq lettres, merde, que Cambronne aurait prononcé à Waterloo. Comment est-ce que cette rumeur se propage?
Alors, d'après mes recherches, la rumeur a commencé à se propager d'abord à Nantes, dans sa ville natale, dans les années 1820. C'est-à-dire que Cambronne était déjà connu pour sa formule, on va dire éclatante, la garde meurt et ne se rend pas. Mais une autre rumeur démarre à Nantes qui va être reprise par un journaliste du Mercure dans les années 1827-1828 et ensuite qu'on va retrouver dans le dictionnaire des contemporains chez Larousse après la révolution de juillet 1830. Alors, très rapidement, on va poser la question à Cambronne de savoir s'il a prononcé ce mot ou cette formule. Alors, la formule, il l'a toujours nié, mais on peut penser aussi, alors, la formule l'a toujours nié, le mot, en revanche, il est plus ambigu. Il est plus ambigu parce qu'à certains, il dit qu'il ne l'a pas dit. À d'autres, il va le dire et il dit « mais je n'ai pas dit que cela, d'ailleurs ». Mais il faut se mettre à la place de Cambronne. C'est quelqu'un qui veut réintégrer l'armée en 1815. Il fait partie des proscrits. Il risque sa tête. Il va être jugé pour haute trahison. On a fusillé Ney en décembre 1815. Lui s'est rendu aux autorités royales le lendemain de la mort de Ney. Il va jouer sa vie. Il n'a pas intérêt à dire déjà que la formule la garde meurt et ne se rend pas. Il n'a pas intérêt non plus de confirmer qu'il a dit le mot merde parce que c'est un mot vulgaire, grossier, et il veut réintégrer l'armée et il veut montrer son attachement au roi. Donc il va tout faire pour déconstruire cette image de personnage grossier qu'il a en réfutant cette thèse.
Vous pensez qu'il l'a prononcé?
Ah oui, puis pas que ce mot. Pas que ce mot.
Ah oui, c'était quoi les autres?
Ah, les autres, c'est bande de gens foutres, c'est qui étaient des insultes de l'époque. J'en ai rien à foutre de vos... C'était ça, surtout.
Et justement, tout l'enjeu de votre ouvrage, Stéphane, c'est de déconstruire la légende et de montrer pourquoi Pierre Cambronne a été érigé en héros national après la bataille de Waterloo, alors que son rôle, au fond, on le voit bien, n'a pas été déterminant. À l'issue de la défaite cuisante, la France et l'Empire avaient en fait besoin de se trouver des héros.
Tout à fait. La France, effectivement, a besoin de héros. Et puis, c'est comme je le disais tout à l'heure, on a toujours cet affrontement politique. En fait, c'est la Révolution qui revient et cet affrontement politique qu'il y a entre, d'un côté, les partisans de la monarchie et, de l'autre, les partisans de la Révolution. Et finalement, vous avez une légende noire de Napoléon que les royalistes vont tenter d'instrumentaliser dès 1815. Mais aussi, on a une légende dorée. Et c'est cette légende dorée qui va l'emporter. Et dans cette légende dorée, vous avez les faits d'armes de Waterloo, alors qu'ils sont exagérés, surexagérés, ce qui va faire de Cambronne l'un des thèmes central, enfin je veux dire capital de la bataille de Waterloo avec le sacrifice du dernier carré. D'ailleurs, il n'y a jamais eu de dernier carré, ils étaient plusieurs, il y avait plusieurs carrés. Il y avait plusieurs carrés. Ensuite, il ne faut pas nier son héroïsme. À Waterloo, Cambronne avec ses chasseurs, ils sont 655, ils se font tailler en pièces en une demi-heure. Le taux de perte avoisine les 40%. Pour l'époque, c'est énorme.
C'est énorme.
Néanmoins, quand même, pour terminer sur Cambronne, on peut imaginer que sans le mot et sans la formule qu'on a évoquée, il n'y aurait certainement pas aujourd'hui une station de métro Cambronne à Paris ou le cours Cambronne et la statue du général à Nantes.
Il n'y aurait rien de tout ça.
Il n'y aurait rien de tout ça. Donc, heureusement, finalement, qu'il y a ces mots qui sont restés pour lui.
Il n'y a rien de tout ça et probablement que Cambronne n'aurait jamais été connu dans l'histoire. Il serait resté un anonyme comme des dizaines de milliers d'autres de la Grande Armée.
Mais on a commémoré en 2015 le bicentenaire de la bataille de Waterloo. Et quelle place, Cambronne avait-il dans ces commémorations et où personne n'en a parlé.
On en a très très peu parlé. Ça a été évoqué un petit peu dans l'émission de France 5 là, où il y avait 5 historiens qui étaient invités pour parler de la bataille de Waterloo avec le rapport avec les écrivains. Cambronne a été évoqué 10 secondes, mais c'était plutôt sur le ton de la plaisanterie.
Toujours pauvre Cambronne.
Vous voyez, voilà. Mais c'est vrai que son nom est associé,
au mot. Oui. Parce que quand on veut pas dire merde, on dit
Cambronne.
Je vous dis le mot de Cambronne.
Je vous dis le mot de Cambronne. C'est vrai que souvent on entend ça.
Oui. Et on disait je vous en Cambronne aussi.
Je sais pas si c'est plus aimable. En tout cas, merci beaucoup Stéphane Calvet. Je rappelle que votre livre Cambronne, la légende de Waterloo est disponible aux éditions Vendémiaire. Et je précise que vous ferez paraître prochainement chez Perrin un ouvrage consacré à la garde impériale de Napoléon, dont le général Cambronne faisait évidemment partie.
Bien entendu.
Merci à vous.
Merci.
Ici Europe 1. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Tous les jours des 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter elle. Elle nous raconte des histoires toujours dans un parfait français. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Et Clémentine, au Québec, le français, eux aussi devraient le parler et bannir les mots anglais, comme le prévoit justement la loi 101 de 1977.
Absolument Stéphane, parce que les Québécois sont depuis toujours farouchement attachés à leur langue, le français.
Parce qu'elle est menacée, contrairement...
Exactement, peut-être plus que nous. Et donc, ça les consterne de nous voir, dire, spoiler, faire des podcasts. Ils sont navrés de nous voir ne pas protéger davantage notre langue. La moindre remise en cause du statut de la langue française, là-bas, il est depuis des lustres l'objet de débats et même de manifestations passionnées. Et on y parle depuis des siècles, un français absolument perlé. C'est ce dont ont témoigné de nombreux voyageurs au XVIIe et XVIIIe siècle. Nulle part ailleurs, on ne parle plus purement notre langue, écrit en 1744 le français Charlevoix. Les Canadiennes parlent un français épuré et n'ont pas le moindre accent, enchérit Louis Franquet en 1752. Dans Voyages et mémoires sur le Canada, en 1756 cette fois, c'est le marquis de Montcalm qui note dans son journal que les paysans canadiens parlent très bien le français. Et l'année suivante, l'explorateur Bougainville écrit « Les Canadiens parlent avec aisance et leur accent est aussi bon qu'à Paris ». Ce qui nous paraît curieux, parce que de notre point de vue, nous qui vivons au nord de la Loire, en tout cas, nous avons le sentiment que les Québécois ont un fort accent. Et ça n'est pas du tout la perception qu'en ont les voyageurs des XVIIe et XVIIIe siècles. Mais alors, évidemment, quand la colonie française passe sous contrôle britannique avec le traité de Paris en 1763, le français, hélas, perd son statut de langue royale. Mais 10 ans plus tard, comme les Québécois sont des têtes de mule, eh bien, le Canada, le Québec, qu'on appelle à l'époque le Bas-Canada, ce qui est un petit peu désobligeant d'ailleurs, eh bien, va reprendre son statut juridique. C'est l'acte de Québec de 1774, qui est institué en même temps qu'on réinstaure au Québec le catholicisme. Donc longtemps, les Britanniques, bien sûr, ont rêvé et rêvent encore d'angliciser une fois pour toute la population. Et même si cette langue française a obtenu un statut officiel à égalité avec l'anglais en 1867, c'est quand même assez tardif, en réalité, les Anglais n'ont qu'une envie, c'est de restreindre l'usage du français là-bas au seul périmètre québécois. Seulement, oui, les Québécois vont résister. Vous savez quelle est leur devise, hein? Je me souviens, bien sûr. Alors ça n'est pas pour rien. Le contexte de cette fameuse loi 101, dite aussi charte de la langue française, ce sont les années 60, parce qu'entre 1940 et 1960, il y a eu 400 000 nouveaux arrivants au Québec. On les appelle alors les néo-canadiens. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? dans quelle langue vont-ils choisir d'éduquer leurs enfants? Bah, malheureusement, c'est massivement l'anglais. Et notamment, le choix de toute la communauté d'Italiens, dont les enfants fréquentent tous des écoles anglophones, au point que le français risque de devenir minoritaire dans les quartiers où sont installés ces Italiens. Alors, les Québécois francophones, pas contents du tout, convainquent notamment une célèbre école, l'école Saint-Léonard, de n'accepter que des élèves qui suivent une scolarité en français. Tollé général chez les Italiens. Vous allez quand même pas nous imposer la langue dans laquelle on va élever nos enfants, bien sûr. Alors, ça met tout le monde dans la rue. On vote une loi, la loi 63, qui permet un accès illimité à l'enseignement en anglais au Québec pour satisfaire tous les néo-canadiens, les nouveaux débarqués. Mais enfin, les Québécois sont pas du tout contents parce que cette loi, finalement, avantage l'anglais. C'est ça le problème. C'est que si vous laissez la totale liberté aux gens de choisir, ils choisissent l'anglais qui est plus facile. Alors, bon, cette loi, d'ailleurs, est tout à fait impopulaire.
Bah pour un Italien, pardon, vaut mieux.
Oui, vaut mieux. Bah, vaut mieux le français.
Oui, mais enfin, vous voyez, en tout cas, apparemment, c'est massivement l'anglais. C'est ça. C'est que c'est une langue. Il est plus facile de parler le globish que de parler un mauvais français. Printemps 69, la crise linguistique bat son plein. Il y a quand même des manifestants qui se massent devant l'université McGill à Montréal en réclamant la francisation de cette institution. Plus d'anglais à McGill. Donc, si vous voulez, les inégalités sociales entre anglophones et francophones, le fait qu'il n'y ait aucun bilinguisme dans les instances fédérales, la chute démographique des Québécois français et le choix d'une éducation en anglais par les nouveaux arrivants, tout ça a contribué à créer un climat d'insécurité identitaire chez les Québécois français. Et c'est donc dans ce contexte qu'a été adoptée en 1974 d'abord la loi 22 qui faisait du français la langue officielle du Québec et 5 ans plus tard, le 26 août 1977, par le Parti québécois, la loi 101 qui fait du français la langue d'État, de l'enseignement, du commerce, des affaires et du travail. Et grâce à cette loi, ça a l'air anodin comme ça, mais de nombreux enfants d'immigrants qui ont fréquenté le réseau scolaire francophone s'exprime aujourd'hui en français. Cette loi 101 a permis à Montréal de demeurer une métropole majoritairement francophone, même si maintenant c'est un petit peu tangent. Alors comme le disait Bernard Landry, l'ancien premier ministre du Québec, qui a toujours été pour la stricte application de la loi 101, quand on vit au Québec, on vit au Québec, et la seule langue officielle, c'est le français.
Et tac.
Non, mais des fois. Mmh. Mais ouais.
Ah, ils sont très fiers. Et par exemple, un magasin bien achalandé, c'est qu'il y a beaucoup de chalands. Ah alors que pour nous,
le mot était dévoyé.
Mais je crois que je vous avais raconté quand les Anglais ont imposé un code postal, ils avaient choisi pour le Québec G1Q9 something like that. Et quand on lisait en français, ça donnait G1Q7Q9. Et donc c'est justement le premier ministre québécois de l'époque, Bernard Landry, qui a râlé en disant écoutez messieurs les Anglais, nous votre code postal, on n'en veut pas.
Merci Clémentine.
Merci Clémentine. Après la loi 101, vous vous apprêtez à découvrir la loi 102. C'est celle qui me permet de changer les règles du quiz au dernier moment.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Souvent, quand le quiz est terminé, Stéphane, accablé par la honte de la défaite, s'isole un moment dans les sanitaires d'Europe 1 pour se reprendre. C'est alors qu'on entend ce cri lancinant venu des WC.
C'est pas vrai, dit. Pas vrai.
Et pourtant, si. Mais...
Vous me suivez.
Et encore, j'ai enlevé la chasse d'eau. Mais l'histoire n'est jamais écrite à l'avance. Jouons à Berne Tobiola.
Vous êtes monstrueux.
Je ne sais pas vous, Stéphane, mais personnellement, quand je vois une éponge double face, avec un côté abrasif et un côté plus doux, je suis ébloui par le génie humain. Je suis d'autant plus ébloui qu'il en existait pendant la Rome antique. On appelait ça un xylospongium. Vrai ou faux, Stéphane ?
Xylophène. Xyloforno, c'est grec. C'est le bois, oui.
Xylophone, alors c'est un.
Non, un xylophornos, par exemple, c'est un four à bois.
C'est un instrument de percussion qui est sonore. Ouais. Mais cela dit, les Romains utilisaient effectivement une éponge au bout d'un bâton lorsqu'ils allaient aux toilettes.
Ils utilisaient une éponge. En revanche, est-ce qu'elle s'appelait xylospongium ?
Et est-ce qu'elle était à double face ?
Parce qu'il est tout à fait possible que l'éponge ait été à double face avec une espèce de, vous savez, cette espèce de paille, un petit peu rêche, un petit peu dure.
Mais xylo, c'est une face
astringente et une face voluptueuse.
Xylo pour vous.
Oui, parce que il y a xylospongium, donc je pense qu'il y a un faux ami là.
Alors, suivez votre instinct, Stéphane. Qu'est-ce que vous me répondez ?
C'est faux.
Vous avez gagné !
C'est une bonne réponse. Le xylospongium était une éponge montée sur un bâton.
De bois.
C'était l'ancêtre de la brosse de toilette.
Voilà, c'est ça.
On trouve le mot xylospongium dans un papyrus du 2e siècle, écrit par Tarantianus, un Égyptien enrôlé dans l'armée romaine. Question numéro 2, Clémentine Portier-Kaltenbach. L'histoire retiendra le nom de Joseph McCarthy pour sa chasse aux communistes entre 1950 et 1954. Drogué, accro, le chef américain de la lutte antidrogue lui fournissait directement à McCarthy, donc, de l'héroïne. Vrai ou faux ?
McCarthy, héroïnomane ? Non.
Vous avez perdu.
L'histoire est pleine de surprises. Il ne fallait surtout pas que les soviétiques l'apprennent qu'il était héroïnomane. Cette info aurait pu servir à leur propagande. Le chef du Federal Bureau of Narcotics lui fournissait donc directement de l'héroïne pour éviter qu'il se fournisse à l'extérieur et surtout éviter de faire des vagues.
On est sûr de tout ça ?
On est absolument sûr, c'est une question validée dans le quiz. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Pasiphae est la maman du Minotaure. Quand elle était enceinte de Minos, le roi de Crète, elle a bu différentes liqueurs alcoolisées et c'est ce comportement peu recommandable qui explique pourquoi elle a enfanté des enfants à tête de taureau. Vrai ou faux ?
Je crois pas, non.
Fille de Minos et de Pasiphae.
Qu'est-ce qui s'est
qui
passé ?
Qui est la fille de Minos et Pasiphae, Stéphane ?
Non, c'est...
Il n'y en a pas qu'une. Hein.
Oui, la Psyche. Enfin,
c'est Phèdre. Phèdre. Et Phèdre n'a pas du tout une tête de taureau.
Non, mais elle a enfanté des enfants à tête de taureau.
Ah, aussi. Elle aurait eu des
enfants. Non, je crois pas que ce soit l'alcool.
Ne pensez pas que ce soit l'alcool.
Non, je pense pas.
C'est l'héroïne plutôt.
Non, c'est ni l'un ni l'autre.
Non, ni l'un ni l'autre.
Vous avez.
Belle connaissance de la mythologie grecque, mon fils serait fier de vous. L'histoire est différente, Stéphane. Pasiphae et Minos sont en couple. Poséidon envoie à Minos un taureau blanc pour qu'il soit sacrifié. Mais Minos refuse, déclenchant la colère de Poséidon, qui va envoyer un maléfice, faisant que Pasiphae devient amoureuse du taureau. La suite, vous l'imaginez sans peine. Question numéro 4. Clémentine, elle est pour vous. Attention, c'est une question très importante, dans la perspective d'une question 5. 1962.
Mais non, elle a déjà un point de moins, j'ai deux points.
Oui, mais tout est possible. Oui, c'est la loi 1962.
Comme c'est une question très difficile, elle vaut deux points.
Exactement. 1962, l'amour pénètre une dernière fois dans la vie d'Edith Piaf, c'est joliment dit.
À quoi ça sert l'amour ? On raconte toujours.
Et toujours.
Insensé,
à quoi ça sert d'aimer ? Piaf et Théo Sarapo s'unissent la même année. Il a 26 ans, elle en a 47. Il était son secrétaire particulier avant de devenir son époux. Sarapo est un pseudo. Il a été trouvé par Piaf. Parce que les deux assistants de Piaf, au moment de leur rencontre, se prénommaient Sarah et Hippolyte. Ça faisait
pas du tout.
Sarapo.
Vrai non, ça c'est très connu, mon
Sarapo,
cher ami.
Sarapo, ça veut dire l'amour,
je t'aime. Je veux dire, je t'aime.
En grec.
Vous avez gagné !
Ça vaut bien deux points.
Ce que vous venez de dire est très juste, Clémentine, car vous n'avez pas seulement donné la bonne réponse, vous avez apporté la précision.
Mais non, mais c'est
à
moi qui l'ai apporté.
Que Sarapo signifie aimer en grec.
Non, Stéphane, je sais ça par cœur.
Bravo, Clémentine.
C'est moi qui l'ai apporté.
Égalité, Stéphane, cessez de contester.
Non, Stéphane, je le savais très bien.
Oui,
ça.
Mais c'est moi qui l'ai dit.
On l'a dit en même temps.
Vous irez vous recueillir dans les toilettes tout à l'heure et vous pourrez dire.
C'est pas vrai, dit. Pas vrai.
Vous pourrez vous énerver tant que vous voudrez à ce moment-là, hein, dans la solitude des sanitaires.
C'est
mais pas devant nos éditeurs.
C'est injuste.
Vous abaissez.
Ah non, mais c'est Calimero, alors, Stéphane Bern.
C'est Calimero.
De se venger sur le compte Instagram de Mathieu Noël.
Souvent, j'ai des messages d'insultes qui disent.
C'est vrai.
Oui, ils disent à des fans de Stéphane ou des fans de vous, Clémentine. Ça dépend des fois. Puis comme je vous favorise tantôt l'un, tantôt l'autre, cessez de voler la victoire à Stéphane Bern.
J'ai jamais été favorisé.
Si, vous l'avez. Oh, quel scandale. Question numéro 5. Un jour, j'irai à New York avec vous. Allez, non, soyons fous, partons tout de suite. Été 1907, au Paradise Roof Garden, une attraction fait sensation. Sober Sue, de son vrai nom Susan Kelly, déchaîne les passions. Elle est payée $20 par semaine, ce qui, pour l'époque, est une fortune, pour faire quelque chose sur scène, de particulier. Trois propositions. Que faisait-elle sur scène ? On lui racontait des blagues, elle ne rigolait jamais. Vous pouviez monter sur scène et elle s'engageait à vous faire rire en moins d'une minute, ou elle jonglait avec des mouches vivantes.
3.
1.
Alors, pour vous, Clémentine, Nous allons faire une personne
vrai,
qui...
C'est vrai que je me suis... J'essaie de me figurer ce que ça pouvait donner.
Qui gagne $20 par semaine et qui va y avoir à peu près 2000 euros pour jongler avec des mouches vivantes.
Ça doit être ça, parce que c'est toujours...
On jongle avec des mouches, vous le visualisez.
Ouais.
C'est une défaite cuisante de Clémentine Portier-Calva. Et une victoire triomphale de l'homme des WC. Stéphane Bern, on lui racontait des blagues, elle ne rigolait pas. $1000. $1000, je vous laisse imaginer...
Ouais, c'est comme la série télé
qui était promise à celui qui arriverait à la faire rire. Au départ, des inconnus venaient tenter leur chance en faisant des grimaces, ne marchait pas. Puis de vrais humoristes professionnels venaient interpréter des extraits de leur spectacle. Le public était de plus en plus nombreux, ça commençait à faire beaucoup parler à New York. Puis la vérité a éclaté au grand jour. Suzanne Kelly avait une paralysie faciale.
Du risorius.
Le producteur.
Du muscle qui permet de rire, le risorius.
Le producteur a été condamné pour escroquerie, évidemment, puisqu'elle ne pouvait pas techniquement rire. C'est une victoire de Stéphane Bern.
Ah, merci, relis-le.
Victoire de Stéphane Bern.
Ah, voilà.
Ah. 16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous êtes au cœur d'Historiquement vôtre. 2 heures placées sous le signe de la bonne humeur, de la gaieté, mais certainement pas de la grossièreté. Sauf aujourd'hui, on a une dérogation, c'est ça Stéphane?
Oui Mathieu, enfin c'est pas nous qui sommes grossiers, ce sont nos personnages que l'on réunit aujourd'hui.
C'est vrai qu'ils sont sacrément grossiers.
Oh putain de ta mère, salope !
Après le général Pierre Cambronne, dont la légende raconte qu'il aurait dit merde aux Anglais lors de la bataille de Waterloo, avec ce mot resté dans l'histoire comme le mot de Cambronne, je vous raconte un écrivain au langage pas toujours fleuri, Charles Bukowski, vieux dégueulasse autoproclamé, qui a agacé Bernard Pivot aussi, vous verrez. Quant à vous Mathieu, vous nous brosserez le portrait à 99% vrai d'un grossier plus proche de nous.
Que devient Jean-Marie Bigard? Je suis sûr, Stéphane, que vous vous posez souvent la question. Alors, évidemment, il y a deux Bigards, celui du merveilleux sketch tout en finesse de la chauve-souris, et puis celui du lâcher de salope. Je ne vous demande pas lequel vous préférez, je sais.
Salope.
J'aurais parié. C'est son destin que je vous raconte dans quelques minutes. Avant cela, présentons nos chroniqueurs, des garçons jamais grossiers, même entre eux.
Et toi, tu peux aussi chevaucher ma queue à moi.
Non, je t'en prie, David, restons professionnels. David Castello-Lopez.
C'était Top Gun.
Je ne sais pas quand vous avez prononcé ça, mais c'était choquant. Vous nous racontez les origines aujourd'hui de la brique de lait.
Tout à fait. Mettre du lait dans du papier, ça me paraît très étrange au départ, et pourtant ça a été une révolution.
Du carton, parce que dans le papier, ça tient vraiment très bien.
Avant, c'était des pots au lait, et puis après, des bouteilles en verre.
Exactement.
C'était bien.
Vous avez connu cette époque où le laitier venait...
En Angleterre, c'était... J'adorais le matin, il y avait toujours des...
Mais quand est-ce que vous avez vécu en Angleterre et que le laitier venait...
Vous n'avez jamais eu de correspondant anglais, vous?
Oui, j'en ai eu.
Eh bien, vous voyez.
Oui, c'est vrai. Vous aussi?
Oui, moi aussi, oui.
C'est vrai que c'était exotique pour nous.
Et puis Olivier Pouls, alors avec lui, on va revenir sur les pignons de pain.
Oui, l'origine de ce produit qui sert dans de nombreuses recettes, notamment l'incontournable pesto. Mais je vous parlerai d'une autre recette vraiment délicieuse, la tarte aux pignons.
La tarte, mec, il faut combien de pignons pour faire une tarte aux pignons?
Il en faut un certain nombre.
Mais ça coûte super cher.
Ça coûte un petit peu cher, mais c'est pas non plus hors de prix.
Le budget de nos auditeurs, j'ai l'impression. Tu peux enlever une tarte au caviar, on le prenait 400 grammes.
Au moyen, c'est pas Versailles ici.
il en faut pas 4 kilos non plus.
Ah, c'est possible.
Non, mais je vous rassure, oui, bien sûr.
C'est un plat de fête. La lutte finale, ça sera la fête aussi, la fête de l'histoire. Olivier Pouls est en tête de notre grand quiz. Mais tout de suite, découvrons notre deuxième grossier personnage du jour. Stéphane nous raconte Charles Bukowski.
Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Il a un prénom de roi, de prince, et il en est un dans son domaine, le roi des vieux dégueulasses, comme il s'est lui-même autoproclamé. Stéphane Bern prend sur lui et nous raconte un écrivain américain qui n'a pas fait dans la dentelle, Charles Bukowski.
Avec son générique inoubliable, ses quelques notes de piano en ouverture, elle est l'une des émissions cultes de la télévision française, apostrophe, présentée sur ce qui était encore alors Antenne 2 par Bernard Pivot. En 724 émissions, le magazine littéraire le plus célèbre du service public a connu, c'est vrai, quelques engueulades mémorables sur son plateau entre 1975 et 1990. Mais l'émission du 29 septembre 1978 reste à part. Ce soir-là, les téléspectateurs découvrent, circonspect, en direct à l'écran, un quinquagénaire au visage grêlé encore largement inconnu. Son nom, Charles Bukowski, un écrivain invité pour présenter son dernier roman, Women. Si personne ne se formalise de le voir enchaîner cigarette sur cigarette, tout le monde comprend vite qu'il est parfaitement saoul et qu'il l'est un peu plus à chaque fois qu'il boit directement au goulot de l'une des 3 bouteilles de Sancerre posées près de lui. Bernard Pivot mène l'entretien comme il peut. Mais Bukowski n'arrête pas d'interrompre tout le monde en grommelant des mots et des injures que personne ne comprend jusqu'à ce que François Cavanna, invité ce soir-là, finisse par craquer.
Bukowski, ta gueule, tu nous entiques.
Voilà.
Moi, je voudrais dire quelque chose de te faire dire, mais je peux pas. J'attends le trou et tu me le donnes pas.
Quelques minutes plus tard, ivre mort, Bukowski se fait presque traîner à l'extérieur du plateau avant d'être mis dehors par les agents de sécurité. Et le lendemain, tout le monde s'arrache les livres d'un écrivain américain que pas grand monde ne connaissait vraiment jusque-là. Heinrich Karl Bukowski est né en 1920 en Allemagne et n'est devenu que Henry Charles Bukowski qu'en 1923 lorsque ses parents ont anglicisé leur nom après avoir émigré en Amérique. Sur le papier, la famille fait partie de la petite classe moyenne, mais à la maison, le petit Charles vit un enfer, constamment battu par un père alcoolique et violent. Alors très jeune, Charles Bukowski cherche des échappatoires. Il y en aura trois qui vont l'accompagner toute sa vie. L'alcool, le sexe, et l'écriture qui lui tombe dessus le jour où son institutrice lit sa rédaction à haute voix. Tout le monde écoutait. C'était mes mots à moi qui remplissaient la salle de classe qui allait de tableau noir à tableau noir. Quelques-unes des plus jolies filles de la classe commencèrent à me regarder en douce. Tous les durs étaient furibards, expliquera-t-il. Pour échapper à sa brute de père, Charles Bukowski passe son temps à la bibliothèque et dévore tout ce qui lui passe sous les yeux. De Dostoïevski à Louis-Ferdinand Céline, ce maître qui chuchote à son oreille pour reprendre ses mots. Il en tire une conviction. Écrire pour les beaux quartiers, ce sera sans lui. Il déteste la littérature qui pue la lavande, celle des truqueurs qui manient les mots avec des pincettes. À 20 ans, Bukowski tombe dans l'écriture comme il est tombé dans le sexe et dans l'alcool, à corps perdu et avec excès. À moitié clochard, durant 20 ans, il accumule les petits boulots mal payés. Il sera tour à tour chauffeur, ouvrier dans les abattoirs, cheminot, colleur d'affiches, avant de finir postier, un job qu'il garde près de 15 ans pour un salaire de misère. Comme passer une semaine sans écrire le rend physiquement malade, chaque soir, il glisse une feuille dans la machine à écrire, il décapsule une bière, ou plutôt 12, et c'est parti. Il écrit comme on balance des grenades. « J'écris pour sauver ma peau, pour échapper à la maison de fou, à la rue et à moi-même », dit-il. Ce qu'il veut, c'est décrire la réalité, raconter la viande, les corps, le sperme et la sueur. Les années 50 et 60 sont celles de la Beat Generation, de Jack Kerouac et des autres. Mais Bukowski, c'est encore autre chose. C'est la biture génération. Celle des clochards, pas vraiment célestes, et des losers, même pas magnifiques. C'est l'Amérique de la Cour des Miracles, sale, organique, puante, crasseuse et grossière, mais aussi féroce, dure, drôle et violente. Celle de John Fante, de Huber Selby Jr. et donc de lui, Charles Bukowski, champion d'une vulgarité qu'il jette au visage de l'Amérique propre et saine, comme pour lui dire qu'il en existe une autre et qu'elle a quelque chose à dire. Bukowski, c'est la poésie des barres de nuit et des tas d'ordures, des caleçons souillés, des cendriers qui débordent, du sexe minable, des motels à 3 dollars, de la déchéance et des gueules de bois. L'acné et l'alcool lui ont ravagé le visage. Il est laid peut-être, mais qu'importe, il a du style et il en joue. Je dis aux femmes que mon visage, c'est mon expérience. Je leur dis n'importe quoi pour qu'elles baissent leurs culottes. La vie de famille, la maison avec un jardin et un labrador, très peu pour lui. Dans l'ensemble, les femmes, j'ai eu plus de plaisir à les baiser qu'à vivre avec. Après tout, tirer sa crampe, ça revient à botter le cul de la mort en chantant, confesse celui dont les écrits, à la fin des années 50, ne lui ont rapporté que 47 dollars. Mais pourtant, petit à petit, Bukowski sort de l'anonymat. En 1969, à 49 ans, il publie les mémoires d'un vieux dégueulasse et de proche en proche, ses textes finissent par faire mouche. On commence à lire Bukowski aux États-Unis, mais surtout en Europe. Les mémoires commencent à circuler en France et en Allemagne, suivis par Les Contes de la Folie Ordinaire en 1977 et par d'autres brûlots tous plus scandaleux les uns que les autres. Même le cinéma s'intéresse à lui. En 1987, Barbette Schroeder tourne Barfly, tiré d'un script à moitié autobiographique de Bukowski avec Mickey Rourke et Faye Dunaway. Que ce soit dans L'amour est un chien de l'enfer, Woman, Pulp ou Souvenir d'un pas grand-chose, Bukowski ne fait pourtant rien pour se faire aimer. C'est cru, c'est direct et vulgaire, à la fois infect et inimitable, mais toujours sans concession. Chez lui, On vient chercher le frisson de la canaille, la métaphysique de la vermine. Et tant pis s'il ne tient pas debout, tant pis s'il s'écroule une fois sur deux en injuriant la terre entière lorsqu'on lui demande une lecture en public. De toute façon, la célébrité et l'estime des cénacles littéraires, Bukowski s'en fout. Tout ce qui compte, c'est d'avoir quelque chose à dire. Chaque fois que tu t'assieds devant ta machine à écrire, raconte le vieux dégueulasse autoproclamé, ta réputation est partie avec le soleil de la veille. Tu redeviens un débutant. Bukowski a fini par tirer sa révérence en 1994, victime d'une leucémie, à 73 ans, un âge remarquablement avancé pour un homme qui n'a jamais cessé de s'autodétruire. Et le style, il l'a gardé jusqu'au bout, jusque sur sa pierre tombale, où il a laissé une courte phrase aussi ambiguë que lui. « Don't try, n'essaye pas ».
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour tâcher de mieux comprendre Charles Bukowski, nous sommes Stéphane en duplex avec un journaliste qui a eu l'occasion de le rencontrer. Bonjour Jean-François Duval.
Bonjour. Oui Jean-François Duval, vous êtes l'auteur de l'ouvrage « Buck and Lee Beats » paru aux éditions Michalon dans lequel on peut lire la retranscription d'un entretien qu'il vous a accordé chez lui en Californie en 1986. Ce soir-là, l'homme que vous avez rencontré vous a semblé être le même que celui que l'on avait pu voir en 78 sur le plateau d'Apostrophe. Est-ce que cette fois-ci il était sobre ? Racontez-nous cette soirée.
Oui, alors écoutez, je lui avais envoyé une carte, il m'a répondu par une carte postale où il m'a dit « Ok pour l'interview, venez me voir, passez par-dessus le fleuve Hadas, c'est-à-dire franchissez l'Atlantique, descendez aux enfers, venez me voir ». Je suis arrivé chez lui, c'était le soir, on a passé toute la soirée ensemble chez lui, à San Pedro, il y avait sa femme, Linda Lee Bukowski aussi. On a descendu, non pas du Sancerre, mais trois bouteilles de rouge, et j'ai rencontré un homme tout à fait différent de celui qu'on a vu à l'émission de Pivot. Parce qu'évidemment, avant l'émission de Pivot, ses éditeurs du Sagittaire lui avaient fait boire pendant l'après-midi je ne sais combien de bouteilles de Sancerre. À l'émission, il y avait en plus trois autres bouteilles supplémentaires. Donc, j'ai pas rencontré le même homme. J'ai rencontré un homme extrêmement chaleureux, lucide, d'une extrême lucidité, formidable d'humour, d'une présence incroyable. Et moi qui ai rencontré par ailleurs le Dalai Lama ou Woody Allen, je peux dire que la rencontre la plus mémorable que j'ai faite de toutes celles que j'ai faites dans ma carrière de journaliste, c'est celle de Charles Bukowski.
Mais alors, quand même, pour revenir sur cette séquence culte d'Apostrophe, qu'on appellerait aujourd'hui un bad buzz, elle a boosté les ventes françaises du livre que Bukowski était venu présenter. Est-ce que c'est ce qu'il cherchait en se comportant ainsi? Ou bien c'est tout l'inverse? Il se contrefichait totalement des retombées de ce type d'exercice promotionnel. Et ça s'est juste trouvé comme ça.
Il avait horreur de se produire en public et de tout ce genre de performance, si je veux dire. Et en effet, comme j'ai dit, donc il avait tellement bu pendant toute la journée qu'il a été capable que d'articuler des borborygmes pendant l'émission. Et je crois qu'il se contrefichait absolument de la publicité que cette émission pouvait lui faire. Ça lui est tombé dessus par bonheur pour lui, parce qu'ensuite, ça lui a permis justement de conquérir toute l'Europe.
Bukowski a mis du temps avant de se faire connaître aux États-Unis. En fait, c'est d'abord en Europe qu'il a rencontré le succès. Comment on peut l'expliquer ? Son œuvre bousculait trop les valeurs intangibles de l'Amérique ?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'au fond, d'abord, il n'est pas le premier écrivain à avoir été d'abord reconnu en Europe. On peut citer Edgar Allan Poe, qui est toujours considéré comme un mauvais écrivain aux États-Unis, comme un freak, un monstre. Lolita de Nabokov a aussi été publié en France 3 ans de lettres avant aux États-Unis. Et bon, Bukowski s'inscrit dans cette lignée-là. Et en effet, ce qui lui abat, c'est le conformisme américain. Il met au fond les Américains, l'American Dream. Il s'en prend à l'American Dream. Mais ça veut dire qu'il met les Américains le nez dans leur fumier. Donc les Américains, évidemment, n'ont pas tout à fait apprécié ça à l'époque où il a commencé à publier.
Les écrits de Bukowski, on l'a dit, c'est un langage très cru, souvent grossier, à chaque page ou presque. Mais au-delà de ce qui choque dans ce qu'il écrit, comment on pourrait définir son style ?
Alors son style, c'est celui d'un boxeur. Il se prenait pour un boxeur sur le ring. Quand il écrivait, il montait sur le ring. Et sa façon d'écrire, c'est de décocher des uppercuts, justement pour renvoyer le lecteur à la réalité la plus crue. C'est pour ça qu'il emploie les mots les plus simples, les plus crus, certains grossiers. Il s'agit de montrer la réalité telle qu'elle est. Il a horreur de tout ce qui est romantisme, illusion et des belles phrases. Donc il faut montrer la vérité comme elle est, et la vérité pour lui c'est celle des bas-fonds.
Les écrits de Bukowski sont empreints d'une certaine noirceur. Est-ce que ça correspond à sa vision du monde et de l'humanité finalement? Parce que son parcours, c'est vrai, a pas été des plus tranquilles. C'est pas un long fleuve paisible.
Tout à fait, c'est-à-dire que sa vision de l'humanité est complètement désabusée. C'est-à-dire que si je le compare avec les clochards célestes qui étaient les Beats, Kerouac, Ginsberg, Burroughs, etc., lui, justement, il pensait que la réalité, ça n'était pas dans le ciel et dans les étoiles et dans les voies célestes et spirituelles, mais que c'était en s'enterrant dans son trou en solitaire et en descendant, en effet, dans les derniers cercles de l'enfer et tentant, dans les derniers cercles de l'enfer, de faire au mieux, c'est-à-dire de s'en tirer avec humour et cocasserie. C'est ça qui sauve. C'est l'humour quand on est dans la dèche.
Stéphane expliquait dans le récit, les échappatoires favoris finalement de Bukowski, c'était l'écriture, l'alcool et les femmes. Quelle place elles ont dans ses écrits, les femmes, justement ?
L'écriture, effectivement, comme je l'ai dit, elle est salvatrice parce qu'elle permet de combattre, en quelque sorte, de transcender le réel. L'alcool, pour lui, c'était surtout, il ne recommandait pas l'alcool à tout le monde, c'était un carburant pour lui sur le plan écriture. Et les femmes, ce qu'il appréciait, il préférait vraiment les putains, les prostituées ou duchesses ou starlettes de Hollywood qu'il apercevait ici et là. Pourquoi ? Parce que ça le paraissait être les femmes les plus vraies, c'est-à-dire authentiques. Il était extrêmement, par exemple, il n'aurait pas été du tout d'accord avec Baudelaire, qui adorait le maquillage. Lui, il était contre le flirt, les minauderies, la séduction. Il fallait qu'une femme soit d'abord absolument vraie.
Vous venez justement de publier un livre sur une figure féminine, Louann Anderson, proche des membres de la Beat Generation. Bukowski la connaissait ?
Oui, alors c'est-à-dire que Louann Anderson, c'est la fameuse Marie-Lou qui est une héroïne de Sur la route de Kerouac. Je viens de publier un livre sur elle qui s'appelle justement Louann sur la route avec Neil Cassady et Jack Kerouac. Et c'est une femme qui aurait enchanté, il ne l'a pas rencontrée elle, il a rencontré son époux Neil Cassady qui est le héros de la Beat Generation. Louann, elle, pourquoi est-ce qu'elle lui aurait plu ? Parce que justement, elle était littéralement vraie et nue. Elle a traversé tout le Texas à l'âge de 16 ans à bord de la voiture Hudson de Kerouac et Cassady nue sur la banquette arrière. Et elle avait cette qualité formidable d'être une sorte de salamandre, c'est-à-dire, comme Bukowski, de traverser les flammes, c'est-à-dire de s'en tirer en passant à travers les flammes et en s'en sortant de la sorte par son extrême jeunesse et son espièglerie.
Dans l'entretien qu'il vous a accordé en 86, Bukowski confiait avoir détesté beaucoup plus de livres qu'il n'en avait aimé. Et parmi les auteurs détestés qu'il citait volontiers, il y avait tous ceux justement de la Beat Generation, Kerouac, Ginsberg, Burroughs. Pourtant, son image a été largement associée à ce mouvement. Comment vous l'expliquez ? C'est une forme de marginalité qu'ils avaient en commun, finalement, le fait d'être ces enfants terribles de l'Amérique ?
C'est-à-dire que le grand point commun, c'est tous des clochards célestes ou pas célestes. C'est-à-dire que ce sont des tramps, des vagabonds, des errants, des gens en quête d'absolu. Sauf que la voie empruntée n'est pas la même. C'est-à-dire que les Beats, eux voulaient s'élever. Enfin, comme je l'ai dit, c'était des clochards célestes en quête d'absolu. Et comme Icare, ils se sont brûlés les ailes, ils ont chuté. Kerouac et Neil Cassady ont très très mal fini. Et finalement, on peut dire que d'une certaine façon, ils ont rejoint Bukowski dans le caniveau et dans les bas-fonds. Les Beats étaient sur la route et ce que faisait Bukowski, c'est plutôt de montrer les bas-côtés de la route. Ils se sont finalement tous retrouvés roulés sur les bas-côtés de la route, mais tous les Beats et Bukowski en ont tous tiré des textes et une littérature formidable, puisque comme le voulait, je crois, Mallarmé, tout doit aboutir à un beau livre, ce qui est l'essentiel.
Et justement, en parlant de beau livre, par lequel on commence si on veut accéder à découvrir l'univers de Bukowski, lequel de ses ouvrages on choisit en premier ?
Alors, à n'en pas douter, parce qu'il est semi-autobiographique, Les souvenirs d'un pas grand-chose.
Ah oui.
Bukowski raconte sa vie, et à part ça, on peut aussi lire évidemment ses nouvelles, les contes de la folie ordinaire, ou alors ses poésies, dont par exemple les éditions du Diable Vauvert publient actuellement un texte qui est très très bon, qui s'appelle « Le temps des vivants et des morts ».
Merci beaucoup Jean-François Duval. Je rappelle que votre livre Buck et les Beats est toujours disponible aux éditions Michalon et que votre dernier roman Louann sur la route avec Neil Cassady et Jack Kerouac vient de paraître aux éditions Gallimard. On remercie d'ailleurs les équipes de la RTS pour la qualité de ce duplex.
Merci la Suisse. Vous avez noté la qualité du duplex. Quand on est en duplex avec la Suisse, c'est toujours un son parfait.
Ça fonctionne, oui.
Ça fonctionne.
Bravo les Suisses, merci.
16h, 18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui, dans Historiquement Vôtre, on évoque de grossiers personnages. Après Pierre Cambronne et Charles Bukowski, vous nous brossez, Mathieu, le portrait à 99% vrai d'un humoriste qui a fait de la grossièreté sa marque de fabrique, Jean-Marie Bigard.
Alors, on connaît tous Jean-Marie Bigard.
Moi, je lui ai demandé un autographe en 1991.
Oui, dans la queue de la pharmacie de la place de Clichy. Mais depuis, notez que vous ne lui en avez pas redemandé. Et pour cause, son humour est quelque peu passé de mode. Il y a différents types d'humour. Il y a l'humour haut de gamme qui joue sur des références historiques.
Il ressemble à Jésus-Christ. Mais Jésus portait-il des chemises wrinkle-free?
Oui, mais en lin.
En lin seul, oui.
Haut de gamme qui joue également parfois sur des références littéraires.
Tout le monde a goûté un jour ou l'autre au cidre. D'où vient-il, cidre? La réponse avec Olivier Pouls.
C'est du corneille, non, le cidre?
Puis il y a l'humour, évidemment, de riche.
Merci beaucoup.
Et puis, il y a un type d'humour plus leste. Seuls les grands peuvent passer de l'un à l'autre sans dommage.
Bah aujourd'hui, on ne découvre pas un saint, mais une langue.
C'est la seule chose que je ne peux pas manger, Olivier Pouls, la langue de bœuf.
Bah, vous en avez bouffé pourtant.
Stéphane Bern fait partie de ces rares humoristes dits polyvalents.
Ah oui, on a cassé les pattes arrière.
Oui, bon, Stéphane, on a compris. On a constaté votre polyvalence. Jean-Marie Bigard, lui, n'est pas vraiment polyvalent. Il excelle uniquement dans la deuxième catégorie.
Tu sais ce que dit la jambe gauche à la jambe droite d'une blonde au retour de vacances? On s'est pas vu depuis 3 semaines.
Ah, le bon temps d'avant MeToo. On savait vivre, Stéphane, et on savait rire. Non, si comme moi, en tant qu'homme, vous demandez parfois si vos propos, il vient de la comprendre. Il vient de comprendre la blague de Bigard. Il vient de la comprendre.
Avec c'est effet si
rétroactif. Ouais. C'est pas si mauvais.
Ah non, ça fait rire.
Il a une manière de dire les blagues de Jean-Marie Bigard qui est quand même exceptionnelle. Ça, on peut lui reconnaître. Non, si comme moi, vous demandez parfois si vos propos ne franchissent pas la limite de ce que les féministes peuvent tolérer, rassurez-vous, quoi que vous disiez, ça sera toujours en deçà de ce que disait Bigard dans les années 2000.
Et pourquoi les cercueils de blondes sont triangulaires? Bah, dès que tu les mets dans le noir, elles écartent les jambes.
Oui, bon, merci Jean-Marie, merci.
C'est quand même la même blague hein, que celle d'avant.
Exactement, c'est la même blague, mais un peu twistée. Oui, okay. Jean-Marie Bigard naît le 17 mai 1954 à Troyes, dans l'Aube. Issu d'un milieu ouvrier et modeste, il passe le plus clair de sa scolarité à faire se poiler ses camarades. À la puberté, il découvre un concept qui le détournera officiellement et définitivement des études.
Le chichon.
Non, David, les filles. À cause d'elle, sa faculté de concentration est limitée. Aux longues études fastidieuses, il préfère donc accélérer son accession à la vie active en passant un BEP mécanique. Pompiste dans un premier temps, il esquive ensuite le service militaire obligatoire et se lance dans le commerce de vieilles Citroën abandonnées qu'il retape pour les revendre à prix d'or à Paris. Lorsqu'il a 20 ans, alors là, oui, c'est la partie un peu triste, sa mère meurt d'un cancer, puis son père est assassiné à coups de marteau chez lui par un bûcheron, ex-compagnon de la nouvelle compagne de Monsieur Bigard. Pour couronner le tout, Jean-Marie doit ensuite faire face au décès de son meilleur ami, victime d'une crise cardiaque.
C'est assez bête.
Comme vous dites, Stéphane, avec ce sens de l'empathie qui a fait votre succès. Jean-Marie parvient néanmoins à surmonter tous ces drames. Passionné de handball, il devient prof de PS. Parmi ses élèves, il y aura un certain Raphaël Mesrahi. Preuve qu'il n'était pas un très très bon prof de PS. Mais bien vite, Jean-Marie se lasse et quitte l'éducation nationale pour une reconversion que son conseiller Pôle emploi n'avait pas validée, barman. Ce qui lui permet pour la première fois d'allier, de manière rémunérée, ses trois passions, l'humour, l'alcool et le sexe. Un soir, il rencontre une autre future étoile de l'humour hexagonal, Tex. Ensemble, ils décident de quitter l'Aube pour tenter leur chance à Paris. Les débuts sont rudes pour Bigard. Au petit théâtre de Bouvard, Tex lui vole la vedette. En 1984, il joue enfin ses sketchs sur la scène du Point-Virgule. C'est là qu'il rencontre Laurent Baffy, qui va devenir son grand complice. Et c'est bien sûr grâce à l'émission La Classe de Fabrice sur France 3, FR 3 à l'époque, que Bigard se fait connaître du grand public. Son premier one-man show, Vous avez dit Bigard, est un succès. Son humour en dessous de la ceinture séduit une France qui, à l'époque, ne demande que ça. Il remplit des salles de plus en plus grandes. L'affiche de Bigard met le paquet. Je sais pas si vous vous souvenez, un slip très moulant en gros plan fait scandale, mais il affiche complet. Il va même marquer l'histoire en étant le premier humoriste à remplir le Stade de France en 2004. La même année, c'est la consécration. Un sondage de l'IFOP le désigne comique préféré des Français. Il est au sommet de son succès et de ses excès, je le cite. « J'ai eu une période pute-coke. La coke et les putes, c'est comme le pain et le fromage. Quand il te reste du fromage, tu rachètes du pain, et quand il te reste du pain, tu rachètes du fromage. C'est pareil avec les putes !» Une image qui, je le vois, parle à Olivier Pouls. Entre deux soirées de débauche, Jean-Marie trouve tout de même le temps de rencontrer Claudia, une danseuse brésilienne. Le couple se marie, donne naissance à un garçon, puis se sépare. Quelques mois plus tard, Jean-Marie ne chôme pas et épouse Lola Marois, avec qui il aura dans la foulée des jumeaux. Fini les soirées farines et sexe tarifé. Les années 2010 sont moins fastes pour notre champion de l'humour, qui, comme tous les humoristes en perte de vitesse, participe à Danse avec les stars. En 2014, en pleine tournée, il manque de nous faire une Dalida. À la suite d'une banale opération dentaire, il est victime d'une infection et frôle la septicémie. Un soir à Florac, il s'effondre sur scène, très croyant, contre toute attente, je vous l'accorde. Il voit dans cet événement un rappel à l'ordre de la part de Dieu. Il y a 20 ans, je suis devenu diabétique. C'était un cadeau du bon Dieu. Il me disait, il faut que tu te calmes un peu, pas d'excès. Et puis là, c'est le bon Dieu qui m'a téléphoné encore une fois. Il m'a dit, tiens, je vais te rappeler un autre truc. Maintenant, même la picole, il va falloir monter sur les freins. Malheureusement pour lui, Stéphane, il y a un domaine dans lequel Jean-Marie peine visiblement à trouver la pédale de frein, c'est la politique. Après avoir soutenu Sarkozy, avant de déclarer qu'en fait c'était une vraie grosse connerie, il défend la thèse du complot à propos des attentats du 11 septembre en 2001, avant de se rétracter, mais bon, il répète quand même le lendemain que bon, c'est chelou. En 2017, il règle ses comptes avec le fisc sur Twitter en postant une vidéo coup de gueule dans laquelle il déclare « Je suis fiscalement contrôlé depuis 30 ans sans interruption, ils habitent à la maison, fisc, fédéral. » Internationale de sodomie-citoyenne. Après une sortie déplorable sur le viol sur le plateau de TPMP, il est condamné par le CSA et se dit que ce serait le moment pour annoncer sa candidature sur la liste de Marcel Campion au municipal 2020, Libérons Paris. Il obtient 56 votes dans son arrondissement lors du premier tour et se dit que ce serait le bon moment pour déclarer à la presse qu'il pourrait être intéressé par l'élection présidentielle de 2022 avant, heureusement, de se rétracter et de déclarer « Je n'y connais rien, finalement, en politique ». La crise du Covid n'a pas vraiment contribué à assagir notre Bigard, qui fut de ceux à dénoncer la terrible dictature dans laquelle nous vivions. Alors qu'il pestait contre la fermeture des bars, il a d'ailleurs reçu un appel d'Emmanuel Macron, par l'intermédiaire, paraît-il, de Patrick Sébastien, qui avait filé son 06 au président. Bref, à bien y réfléchir, je crois qu'on préférait encore le Bigard vulgaire au Bigard engagé.
Tous les matins, la bonne, elle se met à genoux devant papa et elle le regonfle.
Je ne sais pas, à voir, à discuter. Aujourd'hui, en tout cas, Jean-Marie Bigard se dit ruiné par la crise sanitaire et son impact sur le spectacle vivant. Bon, alors peut-être aussi un peu par la coke et les putes à l'époque. Bonne nouvelle néanmoins pour ses fans, il est en phase d'écriture pour un nouveau spectacle. Avant de le découvrir, encore un petit best-of, Stéphane.
Je vais attaquer direct par la blonde qui arrive dans une pharmacie et elle veut acheter un déodorant. Et la pharmacienne, elle lui dit « Mais vous voulez un déodorant à boule ?» Elle dit « Non, c'est pour les dessous de bras, uniquement.
» J'avais envie de vous laisser là-dessus.
Merci, Mathieu.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Papa, c'est quoi cette bouteille de lait? Papa, c'est quoi cette bouteille de lait? L'origine de la bouteille de lait, la brique de lait plus
la
précisément,
brique,
avec
lait,
vous, ouais. David Castello-Lopez, l'histoire du Tetra Pak.
Peut-être qu'une chronique sur 30 que j'ai faite sur cette antenne depuis 2 ans, c'est de l'histoire de l'emballage. Hein. La canette, le papier bulle, la boîte de conserve, les cacahuètes d'emballage en polystyrène expansé, un beau souvenir. On s'en était envoyé au visage avec Stéphane.
Quel bordel dans le studio.
Le film étirable, le Tupperware. Oui. Alors, est-ce que ce sont des sujets fun par essence? Non.
Non, mais vous les rendez fun, pourtant,
n'ai-je pas introduit un peu de profondeur dans la trivialité du quotidien? N'ai-je pas montré que derrière la banalité ménagère se cachent des histoires de génie humain, d'autant plus glorieuses que leur gloire est invisible, sans ruban, sans fanfare. Et pourtant, je vous avais encore jamais parlé de la brique de lait.
Ça nous manquait.
Mais oui, qu'est-ce qu'il y avait avant la brique de lait? Le lait, vous savez, ça a quand même un problème assez important, c'est qu'il a tendance à s'abîmer très vite. Mmh. Et donc, pendant à peu près toute l'histoire du monde, la seule façon de conserver le lait efficacement, c'était de le laisser dans la vache. Voilà, on faisait ça.
Faire des fromages.
Ou alors de faire des fromages.
Ou de le boire
voilà,
tout de suite.
Voilà, exactement, ou le boire tout de suite, ou de le laisser dans la vache. Et de ne sortir la vache que quand on avait besoin du lait. Hop, apporte-moi la vache, stop.
Non,
comme ça, j'entrais sur...
La vache, elle a besoin d'être très...
Sinon, ça lui fait mal.
Deux fois par jour, vous voyez.
Ça lui fait mal, mais le lait est conservé. Et donc voilà, on apportait ses cornflakes sous le pis de lait et on mettait et on trayait la vache sur ses cornflakes. Bon, on a partiellement réglé le problème du fait que le lait s'abîmait grâce à celui qui est peut-être le plus célèbre scientifique du monde et la seule personne célèbre originaire du Jura, à ma connaissance.
Pasteurisation.
Il y en a peut-être d'autres. En tout cas, c'est le
Louis Pasteur.
C'est peut-être le jurassien le plus connu. C'est Louis Pasteur. Oui. Et Pasteur, il a découvert qu'en chauffant le lait à une certaine température, on tuait les bactéries et donc on pouvait
pouvait le garder plus longtemps. Donc, on a pu commencer à distribuer le lait, un peu en dehors de la vache, dans des bouteilles de verre. Mais la bouteille de verre, elle posait deux problèmes. Le premier problème, c'est sa difficulté à être parfaitement hermétique. Et le second, c'est une affaire logistique. Les bouteilles de lait, elles sont difficilement transportables. Non seulement parce qu'elles étaient fragiles, mais aussi parce qu'elles prenaient exactement la même place, qu'elles soient pleines ou vides. Mmh. Et en plus, comme elles étaient consignées, ça voulait dire que les gens, ils devaient les ramener au magasin, ce qui limitait le rayon auquel ces magasins pouvaient vendre. Et donc, dès les années 1910 aux États-Unis, il y a des gens qui ont trouvé des façons de mettre du lait dans du carton traité pour être imperméable d'un côté. Alors, il y a une grosse bagarre sur qui c'est qui a commencé, donc je vais pas faire tous les noms, mais disons que tout le monde s'accorde sur le fait que c'est à cette décennie qu'on a commencé à mettre du lait dans du carton. Mettre du lait dans du carton, ça résolvait le problème du volume, puisque ce carton était livré tout plat aux producteurs de lait, et du coup ça prenait vachement moins de place. Et dans les 40 ans qui ont suivi, il y a eu plein d'innovations dans tous les sens dans le monde du carton à lait, mais ça avait du mal à prendre, en particulier à cause de quelque chose que peut-être qu'on a du mal à concevoir aujourd'hui, mais c'est qu'il y avait un lobby des bouteilles de verre qui freinait la pénétration du carton dans le monde du lait. Alors on a dit beaucoup de mal de la Seconde Guerre mondiale, oh là là,
c'est vrai, globalement.
Voilà, tout ça, c'est une catastrophe pour l'humanité, c'est très vrai, mais il y a eu un certain nombre d'avantages. C'est que en déclenchant des pénuries, elle a rendu des nécessités un peu plus puissante. Et donc, il y avait cette idée que il y avait plus de verre, et il y avait beaucoup moins de verre et beaucoup moins de fer blanc pendant la guerre. Et donc, ça a fait que le carton s'est un petit peu plus facilement imposé à ce moment-là. Et juste après la guerre, il y a un monsieur suédois qui est intervenu, qui s'appelait Ruben Rausing. Ruben Rausing, il avait déjà fait fortune dans l'emballage alimentaire en Suède, parce qu'il avait compris dans les années 20-30 qu'il y avait une révolution qui était en train de s'opérer, et que cette révolution, c'était que les épiceries, elles cessaient de vendre les choses en gros et de paquets. Vous voyez, vous voulez tant de beurre, j'ai une grande motte de beurre, je vous en donne 250 grammes dans un petit paquet que je fais vous-même. Les choses commençaient à être pré-packagées. Il avait vu ça aux États-Unis, il a importé ça en Europe et il a fait fortune. Et à ce moment-là, dans les années 40, il s'est dit, mais comment faire l'emballage en carton parfait et parfaitement aseptisé? Et après des années de recherche, il a inventé le Tetra Pak. Le Tetra Pak qui a donné son nom à la marque qu'on connaît tous. Alors, Tetra en grec, qu'est-ce que ça veut dire?
C'est un chiffre, non?
C'est un chiffre?
4.
Tetra, c'est 4.
Ah oui.
Pourtant,
c'est contre-intuitif.
Hein. Et pourtant, quand vous voyez une brique de lait, vous voyez combien de faces?
6.
6 faces.
Oui,
six faces.
Oui,
alors pourquoi? Alors pourquoi est-ce qu'il a pris son entreprise?
C'est vraiment mystérieux.
Tetra Pak.
Hein? Parce que sur les 4 faces, il a rajouté un élément qui permet de rendre le produit dedans tout à fait inaltérable.
Alors, c'est une très bonne idée, très élégante.
À l'origine, ça n'avait pas cette forme-là. À l'origine, c'était une forme de berlingot, comme une espèce de pyramide.
Eh bien, on a exactement la bonne réponse. La grande idée de Ruben Rausing, c'est qu'il a fait un truc d'une élégance folle. Il a pris une grande feuille de papier dont il a fait un cylindre. Je la monte en studio ici, mais c'est un cylindre avec du papier que je vois ici. Et qu'est-ce qui se passe quand vous pliez ce cylindre d'un côté et de l'autre, eh bien, vous obtenez cette forme-ci. C'est un tétraèdre, c'est-à-dire un volume à 4 formes que je monte en studio ici. Vous pouvez le faire chez vous, c'est très amusant.
Ça tenait pas debout, en revanche.
Ça tenait pas debout, mais si vous voyez, vous pouviez couper un bout ici, vous coupiez le bout. Alors là, je ne vois pas en studio, mais on coupe le bout et ensuite vous pouvez le poser sur cette face-là, sur la grande face. Eh bien, vous voyez, voilà. Ça tient habile, sur la table. Là. Habile, complètement habile. 10 ans plus tard, Tetra Pak a sorti la brique de lait qu'on connaît tous, qui a, elle, 6 faces. Et quand ça a eu un succès complètement incroyable dans le monde entier, et quand Ruben Rausing est mort en 1983, Tetra Pak, c'était devenu tout simplement une des premières entreprises de packaging du monde. Les tétraèdres, on les voit plus trop aujourd'hui. Mmh. Moi, je les ai encore vus un petit peu quand j'étais petit pour les berlingots de lait condensé.
De lait condensé, il y avait ça. En petit, d'ailleurs, on les mettait sur le bord de la tasse quand on vous servait.
Exactement, exactement. Et c'est un petit peu le seul domaine où le tétraèdre est resté. Moi, je regrette un peu parce que les briques de lait, c'est vrai que c'est joli, mais il y a une élégance quand même particulièrement forte au tétraèdre de lait.
Ce qu'on peut rajouter, c'est qu'après, il y a eu Péchinet a travaillé beaucoup sur entre les deux épaisseurs de carton pour mettre une feuille d'alu de telle sorte que ça conserve. Donc maintenant c'est longue durée, vous savez.
Mais c'est ça.
Le lait UHT, mais il y avait dedans de quoi préserver le lait longtemps.
Je ne sais pas si votre science, votre connaissance du packaging du lait me fascine ou m'inquiète, en fait. Je ne sais pas comment classifier tout ça. Mais en tout cas, bravo Stéphane, ouais. Visiblement, vous étiez calé. Non,
j'ai adoré la chronique de David. D'ailleurs, si vous voulez la retrouver, retrouver les origines en podcast, en balado
diffusion,
sur toutes les applis audio et en vidéo, sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr.
Et maintenant, Stéphane, vous prendrez bien un pesto saupoudré de pignon de pain. Le pignon de pain, voilà un produit à la mode, Olivier Pouls.
Un produit à la mode et un produit comme le lait qui est extrêmement fragile, qui rancit très vite. Ah, je ne sais pas si vous avez constaté, le pignon de pain, une fois qu'on a ouvert le sachet, il faut se dépêcher de les manger parce qu'après quelques semaines, ça prend tout de suite, ça devient mou et ça prend une odeur un peu rance. Alors peut-être qu'on pourrait mettre des pignons de pain dans des tétrapacks, ça fonctionnerait.
On peut mettre tout dans des tétrapacks.
Mais en tout cas, cette petite graine comestible est issue d'un arbre méditerranéen bien connu, qu'on connaît tous, en tout cas si on est allé dans le sud, c'est le fameux pin parasol. C'est lui qui donne naissance à ces pignons de pin. Il faut savoir qu'après la floraison, donc le pin parasol produit ce qu'on appelle les pommes de pin, avec ces fameuses écailles, et tout au long de l'été, lorsque les températures vont commencer à monter, ces écailles vont commencer à s'écarter petit à petit, et à partir de la fin de l'été, du début de l'automne, on va pouvoir commencer à récolter ces petites amandes qui sont situées à l'intérieur. Alors c'est une récolte qui doit se faire à la main, qui est méticuleuse, et qui est d'autant plus compliquée que chacune de ces petites graines est entourée d'une coque dure qu'il faut casser délicatement pour aller chercher le pignon à l'intérieur.
C'est cher.
Exactement. Mmh. Tout ça se fait essentiellement manuellement. Et donc, c'est vrai que le pignon de pin, c'est un produit qui coûte aux alentours de 50 euros le kilo. Alors, c'est vrai que c'est pas donné, mais on n'en mange jamais un kilo. D'autant que c'est un produit qui, comme toutes les amandes, est extrêmement calorique, extrêmement riche en lipides. Voilà. Donc, on y va quand même mollo. Comme beaucoup de produits, évidemment, les pignons de pin ont longtemps été utilisés pour leurs vertus médicinales. Alors, ils sont favorables pour lutter contre l'impuissance, figurez-vous. Ils sont très bons contre la toux. Et même contre les ulcères. Alors, je ne sais pas très bien ce qui lie ces trois maladies, mais en tout cas, la consommation des pignons de pin a été longtemps considérée comme un médicament pour ces maladies. Alors au Moyen-Âge, on les mélange aux amandes, aux pistaches, au miel et au sucre. Ça va donner ce qui est l'ancêtre du nougat. Et d'ailleurs, on trouve encore des pignons de pin dans le nougat. Et puis, autre recette évidemment qui requiert des pignons de pin, le fameux pesto, puisque le pesto est composé de basilic, de pignons de pin, de parmesan, et d'huile d'olive. Et puis on fait la fameuse tourte aux blettes, aussi en Provence, qui requiert des pignons de pin. Comme l'a dit Stéphane, c'est très à la mode de les mettre sur les salades. Alors on les fait légèrement torréfier dans une poêle et puis on saupoudre la salade. Ça donne et du côté croquant et un petit côté boisé que moi j'aime beaucoup. Et puis je vous propose de faire une tarte aux pignons. Ça, c'est une pâtisserie facile à faire et vraiment délicieuse. C'est sucré, absolument. Alors, vous prenez un temps pour temps, donc 100 grammes de beurre mou, de sucre et de poudre d'amande, 3 œufs, un petit trait de rhum, une pincée de sel et 50 grammes de pignon de pin. Alors, vous allez mélanger les œufs, le beurre mou, le sucre, la poudre d'amande et le sel. Vous faites une belle préparation avec ça, ce qu'on appelle un appareil. Vous collez cet appareil dans le fond d'une tarte, dans un fond de pâte brisée. Vous saupoudrez de pignon de pin tout ça, tac, 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 tac. Et vous enfournez pendant 40 minutes à 180 degrés. Vous avez ce côté pâte d'amande en dessous, les pignons de pin qui sont un petit peu croustillants. C'est et mal, j'ai bon espoir, mon cher Stéphane, de vous réconcilier, non pas avec votre balance, mais avec les pignons de pin, avec cette recette.
Ah oui, vous êtes conquis, Stéphane.
Oui, vraiment. Vous pourrez l'offrir demain matin à Nicolas Bétou.
Quoi donc?
La tarte aux pignons.
Nicolas Bétou, il faut pas expliquer une blague, mais ça c'est le débat. L'opinion, c'est le journal de Nicolas Bétou. Bravo Stéphane, absolument magnifique.
L'humour, pas vulgaire.
Il y a François Pignon aussi.
On va quand même s'arrêter là.
Il faut y rester encore un petit peu.
Merci Olivier. On retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr.
Et pour terminer, l'un de vous aura pignon sur rue s'il remporte la lutte finale. Et c'est le moment de s'affronter.
Europe 1, historiquement vôtre.
Bon, vous connaissez le principe maintenant, je crois, ça y est, il est bien établi, même pour les auditeurs. C'est-à-dire, vous affrontez chacun un droit à sa question. Olivier, je me tourne vers vous, puisque vous aimez tout ce qui est au bord de la Méditerranée, et ce qui vient du sud, l'Italie. Le 9 août 1173, en Toscane, à Pise, commence, et ça tombe bien, la construction de la tour de Pise. Elle a penché dès la première année de son ouverture. C'est vrai ou c'est faux?
Est-ce qu'elle est... Ben, j'étais pas là, alors je l'ai vue récemment, elle est bien penchée, ça je vous le confirme. Bon,
Est-ce qu'elle a penché tout de suite ou est-ce que c'est arrivé quelques années plus tard?
Non, je pense qu'elle... non, je dirais qu'elle a penché tout de suite, il s'était planté sur les fondations.
Non, elle est restée droite pendant 5 ans.
C'était pourtant logique.
Elle a commencé à pencher au bout de 5 ans.
Oui, enfin,
et alors qu'il
n'y
avait que 3... Oui, ah bah non, c'est pas... alors qu'il y avait, que 3... il y avait seulement 3 étages et elle en fait 7 maintenant.
Ouais. Hein. Et ils ont continué, bon, c'est pas...
Voilà, c'est bon, on continue. Ouais. Alors, Mathieu, ça paraît fou et incroyable, mais pourtant, la guerre la plus longue de l'histoire a aussi été la moins meurtrière. C'est vrai ou c'est faux?
L'existence même de la question fait que ça doit être vrai, parce que sinon, il n'y aurait pas aucune surprise, et ça serait vraiment très déceptif pour... Avec ce quiz, vous nous avez habitué à des choses tellement incroyables que là, on serait déçus. Non, je pense que c'est vrai, Stéphane.
Oui, c'est vrai. C'était la guerre dite de 335 ans. Elle a opposé les Pays-Bas et les Sorlingues, un archipel du Royaume-Uni situé en mer Celtique. Elle a commencé cette guerre en 1651. Et puis, aucun coup de feu n'a été tiré. Et puis, on a oublié d'écrire un traité de paix. Et finalement, la paix a été signée en 1986. Oui, donc, c'est la plus longue. Bravo.
Et zéro mort.
Zéro mort, oui, il n'y a pas de coup de feu. David, une question pour vous, je sais que c'est tout à fait ce que vous aimez. Kurt Cobain a fait partie du club des 27, comme Janis Joplin, Jimi Hendrix, entre autres. Une autre légende a un lien avec Kurt Cobain, c'est Mickey. Le deuxième prénom de Kurt Cobain, c'est Mickey. Vrai ou faux?
Je dirais faux.
Ça se trouve, c'est Donald.
C'est Donald.
C'est Donald? Oh, bah alors vous pouvez me donner peut-être la victoire générale.
C'était le prénom de son père. Alors, il nous reste donc deux amis en lice, Mathieu et David. La question qui les partage, parlons chanson, et qui dit chanson dit Eurovision. Créé en 1956, le concours est annuel. Personnellement, j'aime la Norvège, et malheureusement, c'est le pays qui a le record du nombre de fois où ils se sont retrouvés à la dernière place. Combien de fois, la Norvège s'est trouvée à la dernière place?
Il y a combien d'éditions de l'Eurovision?
On est à la 66e, là. Cette année, c'était la 66e.
La Norvège, c'est le record des défaites, des dernières places.
Oui.
Moi, je dis 19 fois.
Moi, je dis 14.
C'est vous qui gagnez, David. C'était 11. Ah. 11 fois.
Un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre s'achève, les amis. Il était consacré à des personnages éminemment grossiers, ce qui évidemment ne vous arrive jamais, Stéphane. Et quel est néanmoins votre juron préféré? Je vous mets en situation, vous passez devant une éolienne, qu'est-ce que vous vous dites?
Je me dis plus rien, je pleure.
Pleurer.
C'est.
Il n'y a plus de mots,
c'est au-delà des mots. Voilà.
Aucun mot conviendrait.
C'est rare que je devienne grossier.
Je vous ai jamais entendu. Je vous ai jamais entendu être grossier.
Ça peut arriver.
La bonne nouvelle, c'est qu'on se retrouve demain, Stéphane. Vous connaissez le programme?
Oui, on réunit des folles de fouilles. L'archéologue Christiane Desroches-Noblecourt, que j'ai bien connu, qui a consacré sa vie au trésor de l'Égypte, elle qui a fait déplacer le temple d'Abou Simbel. Puis Jane, Dieu la foi, qui, bien avant elle, a gravé son nom dans la pierre grâce à ses découvertes en Perse.
Et moi, je vous raconte une autre folle de fouille qui fouille aussi, mais plutôt dans la vie des stars, Mimi Marchand.
Ah non.
Non, forcément, non. Dire le contraire pourrait l'agacer, Stéphane. Oui, et Dieu sait qu'elle a beaucoup. Des dossiers sur vous. Oui. Elle m'a tout balancé. Alors, à demain, Stéphane. À demain, les amis.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.